Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés. Ça va de la nutrition à l'aéronautique, à l'entrepreneuriat bien sûr, mais aussi le développement personnel, le journalisme, le financement, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous trouverez en lien dans le descriptif de l'épisode. Et petit aparté, j'en profite pour vous dire que je compte lancer d'ici peu, ou peut-être que ça a déjà été fait d'ailleurs, je ne sais pas à quel stade on en est par rapport au moment où j'enregistre, une mini newsletter pour vous nourrir en plus du podcast. C'est une newsletter très courte parce que vous avez autre chose à faire, que j'ai autre chose à faire, que le monde du web est déjà plein de contenus merveilleux. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous apporter quelque chose en plus du podcast, quelque chose de simple, d'efficace, des livres à lire, des réflexions, des citations, des films que j'ai vus, des documentaires que je vous recommande. Bref, une petite dose d'inspiration, rapide, efficace, simple et juste inspirée de mes réflexions personnelles et surtout de mes conversations avec mes invités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas juste à vous abonner en allant sur le blog du podcast, tout simplement en cliquant dans la barre qui est en lien ici dans le descriptif. Et cette semaine, je suis particulièrement contente de vous présenter mon invitée, Valérie Descamps. Valérie est tout simplement une femme extraordinaire, quelqu'un que j'admire énormément et qui, je trouve, méritait d'être bien plus mise en avant dans les médias. Je suis donc d'autant plus ravie de lui donner la parole aujourd'hui sur Le Gratin. Si l'épisode vous plaît d'ailleurs, vous pourrez lui dire directement via LinkedIn au pseudonyme Valérie Descamps, tout simplement. Et pour vous donner quelques détails en plus sur elle, laissez-moi simplement vous lire l'article Wikipédia qui lui est consacré. Alors, ça dit la chose suivante. Valérie Descamps, née le 20 août 1967, est une dirigeante d'entreprise française. Directrice générale du quotidien gratuit Métro en France de 2002 à 2008, elle en assure le lancement. PDG du journal d'information économique et financier La Tribune de 2010 à 2012, elle a été la première femme propriétaire et dirigeante d'un quotidien national en France. En février 2012, Valérie Descamps conseille Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum, pour lancer le forum Osons la France. Elle est depuis octobre 2016 directrice générale de Métrobus et gérante de Mediagare et Mediarail, société du groupe Mediatransport, leader de l'affichage transport. Derrière ce parcours corporate très prestigieux, se cache en fait, et c'est elle qui le dit, une ancienne timide, mal dans ses baskets, qui trouve sa voie après une expérience complètement improbable dans le monde du spectacle, aux côtés, figurez-vous, d'Eli Kaku. Je savais en interviewant Valérie que j'allais passer un bon moment, je savais que j'allais apprendre plein de choses, mais très honnêtement, j'ai trouvé que c'était encore beaucoup mieux que ce que j'avais anticipé. Et je suis sortie de l'interview avec une liste de notes longue comme le bras. On a parlé tout autant de techniques de vente, selon les principes de la programmation neurolinguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai des détails dessus dans les notes du podcast. On a parlé aussi de méthodes de prospection, d'équitation, des vertus de la curiosité, la difficulté d'allier vie pro et perso quand on travaille énormément, comme Valérie. On a aussi parlé de choses plus légères, comme la série Dallas, l'inimitable JR, et enfin de la terrible épreuve du tribunal de commerce après l'échec de la reprise du journal La Tribune. Pour ceux que l'entrepreneuriat n'intéresse pas particulièrement, et je sais que vous êtes aussi nombreux à écouter le podcast, Valérie nous a donné aussi une mine de conseils sur comment réussir à s'intégrer dans un nouveau poste à responsabilité, ses clés pour être un bon manager et les questions types qu'elle pose pour bien recruter. Vous verrez, c'est simple, c'est juste, c'est pragmatique, tout ce que j'aime. Je tenais à remercier Valérie pour son temps déjà, pour son accessibilité et pour sa franchise. Et puis surtout, je voulais la remercier d'avoir accepté de vraiment montrer une part de vulnérabilité. Mais trêve de bavardage, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Valérie Descamps. Bonjour Valérie.
Bonjour Pauline.
Bah, merci beaucoup de m'accueillir ici chez Média Transport, dans ton bureau. Ça fait très plaisir. Valérie, on se connaît depuis un moment, mais tu sais peut-être pas, mais j'aime bien commencer toujours mon interview par des questions auxquelles je ne connais absolument pas la réponse et qui sont en plus souvent des choses un petit peu rigolotes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire, et qui, je trouve, parfois disent beaucoup de choses sur le caractère de la personne que j'interview. Et là, moment de suspense, je sens la peur.
Tu m'inquiètes.
Est-ce que tu peux me parler de ta tournée avec Élie Kakou ? J'ai lu ça.
Oh là là.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi tu as fait une tournée avec Élie Kakou ? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a,
t'a appris ? Écoute, ça fait très longtemps. Hein. C'était en 94.
Ouais.
Écoute, je me suis retrouvée effectivement à participer à la tournée d'Élie un peu par hasard. Comme quoi, des fois... À l'époque, j'étais fiancée à son cousin.
D'accord.
Et me voilà à une soirée chez Élie que je ne connaissais pas. Enfin, que je connaissais comme tout le monde en tant qu'artiste, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il se trouve qu'à cette époque, je ne travaillais pas vraiment.
D'accord.
Mon père était malade. Bon, bref, je m'étais mise un peu à disposition de mes parents. Ce qui n'était pas une période assez... c'était pas une période très, très rigolote. Et Élie... Je pense qu'il le ressent et il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de venir avec nous en tournée demain ? Je me souviens, on avait commencé par Metz, une date. Bon, pas super. Je dis, bah, écoute, oui, mais je vais faire quoi ? Et il me dit, écoute, tu pourras toujours vendre des programmes, des casquettes. Et en fait, je suis partie.
Sur un coup de tête, complètement.
Sur un coup de tête, en me disant, bon, c'est une expérience qui va être sans doute unique.
C'est génial.
J'ai pas eu de problème aussi, même, tu vois, à revenir à un job d'étudiant quasiment. J'avais eu quand même déjà une expérience avant, notamment dans la distribution.
Ouais.
J'ai fait ça pendant 9 mois.
Ah ouais, quand même, parce que j'allais te dire. Et tu savais que ça allait durer 9 mois dès le départ ou...
Non, je savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que j'avais envie de le faire. C'était quand même une parenthèse incroyable. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là sont restés des amis.
Ouais.
Des vrais amis que je vois pas forcément très souvent, mais on est restés toujours très, très attachés. Je les ai revus justement le week-end dernier, donc c'est marrant que tu m'en reparles. Et c'était incroyable. Enfin, c'est une autre vie. Tu vis d'une autre façon, tant au niveau de tes horaires que de ce que tu peux... ressentir aux côtés d'un artiste qui était une personnalité super attachante, drôle sur scène et très différente dans la vie privée. Donc à chaque fois, tu vois en fait cette dualité entre pas mal d'artistes d'ailleurs, hein, comiques qui sont pas forcément
pas si drôles,
ils sont pas si drôles dans,
si
la vie.
Dans la vie. Ouais.
Mais c'était extraordinaire. En plus, moi, à l'époque, parce qu'on partageait les chambres, tu vois, on tournait. Tu vis en famille, en fait. Et donc, moi, je dormais avec la sœur d'Élie, Brigitte Kakou, qui est une fille incroyable, hyper drôle, qui a beaucoup inspiré son frère dans certains personnages. Mm-hmm. Et écoute, au bout de 9 mois, bon, la tournée...
La tournée a duré 9 mois, plus de 9 mois.
La tournée, elle a duré plus longtemps. Moi, je suis arrivée un peu en course, si tu veux.
D'accord.
J'avais dû arriver en, je sais plus, en mars, quelque chose comme ça. Et on a fait le tour de France. On était allé ici, on avait même fait des dates en Belgique.
Mm-hmm.
Et on avait fini par le Dôme à Marseille, parce qu'Élie était marseillais, avec une ambiance, un public incroyable. C'était génial.
Et tu dirais que ce côté prendre un risque ou en tout cas sauter dans une aventure que tu n'avais pas anticipé, le côté complètement spontané en fait, de, sur un coup de tête comme ça te dire, c'est quand même un truc assez rare que les gens ne font pas. Alors, tu étais plus jeune, donc peut-être qu'à l'époque, tu avais moins de contraintes, mais c'est quelque chose que... Enfin, ça t'a plu de le faire, ça t'a fait peur, et est-ce que tu continues à avoir des moments un peu comme ça aujourd'hui, de juste, tu fais un truc complètement fou, spontané ?
Ouais, un peu, mais même si tu veux, si à l'époque, pour moi, ce n'était pas une prise de risque, c'était plutôt... À un moment donné où, encore une fois, c'était assez dur avec mon père, qui était vraiment très malade, qui était vraiment entre la vie et la mort. Et là, finalement, c'était, bah tiens, on te propose une parenthèse un peu enchantée. Saisis-la, laisse-toi porter, te pose pas de questions. Donc, tu vois, je suis partie un peu comme ça.
Je comprends.
Et ça m'a fait énormément de bien. Déjà parce que ça me donnait beaucoup plus de force, d'énergie pour mon père. Et à l'époque, j'étais un peu coincée quand même. J'étais pas, tu vois, j'avais pas forcément confiance en moi. J'arrivais pas à exprimer véritablement ma personnalité ou ma créativité. Et ça a été un vrai déclencheur. Tu sais, quand tu t'es en permanence au milieu d'artistes, donc t'es en permanence au milieu de créateurs qui ont confiance en eux, qui osent dire les choses, qui les crient, tu vois. Bon, et ben, je pense que ça m'a donné un vrai plus après, parce que c'est juste après que je suis rentrée chez Énergie. Tu vois, c'est juste après cette expérience-là. Et disons que, oui, sans doute que ça m'a... Enfin, disons qu'après, j'ai souvent pris des décisions, pas sur des coups de tête, mais un peu quand même. C'est-à-dire que dès l'instant où je ressentais les choses, où j'avais le sentiment que la personne en face de moi était sincère, était une belle personne, ou que le projet me semblait être un projet vraiment pertinent, comme à l'époque le journal gratuit Métro quand il est arrivé en France, dans ce cas-là, je me décide super
assez vite. Bah écoute, j'étais contente de te poser cette question parce que je trouve qu'en plus, le côté. c'est le but. Non, mais surtout, moi, je suis très intéressée par tout ce qui est créativité. Et je trouve que souvent, dans le milieu un peu corporate, on néglige justement cette partie cerveau gauche. Ce que je trouve dommage parce que je suis convaincue que même dans des grands groupes, et toi, tu as quand même travaillé aussi beaucoup dans des grands groupes, en fait, c'est une vraie qualité à avoir. On va en parler. Enfin, je sais pas d'ailleurs si tu as un avis là-dessus. Si même aujourd'hui, au quotidien, tu as dit justement exprimer un peu plus ton avis. Peut-être prendre des décisions rapides et avoir de la créativité. C'est quelque chose que tu utilises encore aujourd'hui au quotidien ?
Énormément. Et je pense que c'est un vrai... comment dire ? Un vrai différenciant, un vrai différenciateur. Je fais attention parce qu'il y a la normalienne en face de moi, donc je fais attention aux mots.
T'inquiète pas.
Mais tu vois, c'est pareil, la culture qui malheureusement se perd aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est... Pas plus tard qu'hier soir, on avait cette discussion avec ma fille, tu vois, qui s'interroge sur ses orientations post-bac. Et je dis, tu sais, aujourd'hui, on manque tellement de gens cultivés ou de gens qui ont une vraie créativité, qui ont une vraie personnalité haute que les maths, la physique, le rationnel. Effectivement, comme tu dis, le cerveau gauche. Je suis convaincue que, effectivement, c'est un vrai marqueur. Tu fais la différence aujourd'hui parce que, justement, tu as des idées différentes que tu sais expliquer. Tu cherches pas forcément à faire l'unanimité, mais au moins tu défends un positionnement. Et oui, je trouve que c'est très important. Et moi, la plupart des gens, tu vois, qui me marquent, c'est des gens qui ont soit l'un, soit l'autre, ou parfois les deux. C'est-à-dire soit ce côté créatif ou ce côté très cultivé, mais au sens noble du terme, pas au sens étalage, je sais tout. Et tu vois, c'est Mercedes Serra, qui est une grande dame de la communication. Qui est normalienne également, mais tu vois, elle le dit souvent. Finalement, on a plus intérêt aujourd'hui, pour revenir un petit peu au niveau de l'entreprise, parfois de miser sur des gens, si tu veux, qui n'ont pas forcément un parcours grande école, de commerce ou autre, mais qui ont cette particularité, encore une fois, du cerveau gauche plus développé.
Ouais, et puis de la curiosité aussi, je trouve. C'est quelque chose d'hyper important. Enfin, nous, dans les recrutements, je sais, chez Gemio, c'est l'un des critères, en fait, qu'on recherche le plus. Pas forcément que la personne ait déjà les compétences ou les connaissances, mais par contre, si elle est vraiment sincèrement curieuse, en fait, sky is the limit, quoi. Elle peut vraiment tout apprendre. Et je trouve que c'est ce qui est difficile, c'est que malheureusement, c'est pas facile de se forcer à être curieux. C'est un peu un truc naturel.
C'est vrai.
Mais bon, c'est ce genre de personnalité, c'est sûr que c'est hyper important. Je voulais ensuite enchaîner par te parler un petit peu de ton enfance, si ça te va, et de tout simplement ta jeunesse. Comment t'étais quand t'étais plus petite? Je crois avoir lu que... Donc, déjà, tes parents, ils faisaient quoi? T'étais née à Paris ou pas du tout?
Non. Je suis née dans le Nord, à Croix, donc c'est pas très loin de Lille. Issue donc d'une famille nombreuse, 6 enfants, moi je suis la dernière. Mon papa, donc après quand même une longue carrière militaire, il a quand même participé à plusieurs conflits. Deuxième guerre mondiale, Indochine et Algérie. Il s'est calmé, comme il le disait lui-même, à partir du 4e enfant. Et donc là, il a commencé un cursus de vendeur dans les encres d'imprimerie. Et puis il a gravi tous les échelons. Il était devenu patron commercial d'une filiale de la BASF. Qui s'appelle K+E, qui n'existe plus aujourd'hui.
D'accord.
Et ma maman, quand mon père, quand il l'a rencontrée, elle était standardiste.
D'accord.
Elle vivait à Tunis, ma mère, enfin à Bizerte exactement, sicilienne, immigrée en Tunisie. Et ils se sont rencontrés. Mon père était militaire en mission de surveillance. Tombé amoureux de ma mère qui était très, très belle. Et elle était donc standardiste.
D'accord.
Et elle a arrêté de travailler au quatrième enfant.
Oui, bah, voilà. Ce qui est déjà...
ce qui est déjà pas mal.
Oui,
hein,
je dois
ce qui
dire.
Est déjà un sacré score.
C'est clair. Et toi, du coup, c'était comment la vie quand tu étais plus jeune, étant la petite dernière d'une tripotée de 6 enfants? T'étais quel style, justement? Tu voulais faire comme tes frères et sœurs?
Ouais. Alors, déjà, c'était pas du tout le cliché de la dernière enfant gâtée, parce que mes parents avaient... on a eu une éducation assez stricte.
D'accord.
Pas dure, mais stricte. Mm. Et il n'y avait vraiment pas de préférence, de privilégiés, de favoris, parce que déjà, malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes de maladies dans notre famille, de maladies lourdes. Mm. Donc déjà, ça calme un peu les choses. Ça remet un peu tout le monde à sa place. Et tu peux pas considérer des petits caprices, quoi.
Ouais.
Donc tu vas à l'essentiel.
Tu te focus sur les choses
d'un
sérieuses.
Point de vue éducation, tu vois, c'est ce qu'on a eu et ce qui est normal, hein, je le comprends. Donc une enfance, j'étais hyper sage.
Ah ouais, oui. Ouais, je t'aurais pas imaginé hyper sage. Ouais,
je sais bien, mais
c'est
alors
après
vraiment...
l'ICACU que t'es devenue moins sage.
Oui. Mais tu sais que j'ai eu une adolescence très très tardive.
Ah,
mais
ouais.
C'est vrai en plus. Donc j'étais une enfance sage. Qui n'osait pas tellement parler. Bien, si tu veux, mais oui, une enfant assez réservée, timide. C'est pas forcément... J'ai pas adoré cette période, en fait. L'enfance, oui. L'adolescence, non. J'ai pas du tout aimé cette période. Je me sentais pas bien dans ma peau. J'étais trop grande. À l'époque, c'était pas du tout la mode.
Ouais.
J'étais vraiment pas bien dans ma peau, quoi. Tu vois, quand je te dis que l'ICACU, ça a été une parenthèse qui m'a vraiment fait du bien.
Ouais.
J'étais coincée dans un corps que j'assumais pas. Je me trouvais pas à ma place. J'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Les profs me disaient que j'avais des dispositions, mais j'avais aucune conviction. Enfin, c'était pas une période super.
Ouais. Oui, tu savais pas ce que tu voulais faire en plus, donc je peux imaginer que t'étais.
Ouais.
Ça, c'est hyper dur, je trouve, à l'adolescence, quand on se fait un peu balloter comme ça, qu'on sait pas dans quel sens on doit aller, qu'en plus on est mal dans ses baskets. Donc
oui,
t'avais pas d'idée, toi.
Et puis tu vois, tes grands frères, tes grandes sœurs, bon, qui déroulent et tout, tu dis, oh là là, c'est bientôt mon tour, tu vas de prendre des décisions, et j'ai pas du tout la moindre idée. Donc, si tu veux, globalement, avec les frères et sœurs, on a tous de très bons souvenirs de cette
bien
période,
sûr.
Bien évidemment. Mais d'un point de vue personnalité, j'étais pas super bien dans ma tête, ni dans mon corps.
Et donc, pas d'idée de ce que tu voulais faire plus tard, quand tu étais plus petite?
Non, si ce n'est, enfin, si tu veux, il y avait à l'époque une série... j'assume.
Vas-y,
hein,
vas-y,
je regardais tous les
pas.
Samedis soirs, c'était Dallas.
Ouais.
Tu vois, cette série qu'on regardait
Attends,
en
mythique.
Famille. Et je pense qu'à l'époque, il devait y avoir un personnage d'avocat d'affaires.
Ah.
Voilà. C'était une des maîtresses de J.R. Ewing, d'ailleurs, que j'adorais. Va savoir pourquoi, alors que c'était vraiment un vrai pourri, ce mec, mais bon. Et je me suis dit, je veux faire ça plus tard. Bon, et après, quand je me suis renseignée sur les études qu'il fallait faire, le droit, prendre par cœur, etc., ça ne m'a pas branchée. Et les profs me disaient quand même, parce que, bon, je m'ouvrais quand même de plus en plus à l'école, j'étais quand même déléguée de classe, donc je commençais, si tu veux, à m'affirmer, à m'exprimer et à défendre les copains.
D'accord.
Donc, il y avait ce côté-là, tu vois, défenseur, c'est pour ça qu'avocat, ça m'avait un peu parlé. Et puis, je me souviens d'un prof de français qui m'avait dit, écoutez, vous avez des super dispositions à l'oral. Moi, je vous conseille de faire du commerce, vous allez être super bonne là-dedans. Donc, c'est le seul truc, si tu veux, la seule indication. Je me suis dit, ouais, il n'a peut-être pas tort. Mon père étant également
dans le
commerce,
secteur, ouais.
Je me suis dit, bah, écoute, je vais peut-être tenter cette expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mené
ensuite
à là où je suis aujourd'hui,
ouais.
Tu vois. Donc,
c'est marrant. C'est marrant parce que souvent, j'ai remarqué les personnes assez timides, petites, en fait, peuvent se révéler être de très bons commerçants. C'est pas forcément des personnes très extraverties,
ouais.
Tu vois, qui deviennent de vrais commerciaux. Bah, ça tombe bien parce que je voulais te parler de ta fibre commerciale et notamment quand tu as commencé chez Énergie,
ouais.
Qui est la première grande expérience que j'ai vue dans ton parcours. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivée chez Énergie? Qu'est-ce qui t'a amené et qu'est-ce que tu devais faire initialement quand tu es arrivée là-bas?
Alors, c'était juste après l'ICACU, sachant que Élie, je l'accompagnais partout. Et on allait souvent chez Rire et Chanson, à l'antenne Rire et Chanson, qui est une station du groupe Énergie. Ouais. Donc, si eux, j'avais déjà approché cette maison. Premièrement. Deuxièmement, ma sœur Isabelle était déjà chez Énergie. Et elle savait qu'ils cherchaient des commerciaux.
D'accord.
Donc, elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai dit, bah, écoute, oui, une fois que la tournée sera terminée, pourquoi pas. Et avant Ellie, j'avais eu une expérience quand même dans le groupe Chantel en distribution sélective. Donc, où là, j'avais appris énormément les méthodes, les techniques de vente, tout ce qui est programmation neurolinguistique. J'avais un directeur de vente à l'époque qui était un dingue de ça. Et comme moi, j'étais très jeune à l'époque, très malléable, très influençable... J'étais vraiment un vrai buvard, tu vois, je prenais toutes les méthodes, parce que ça marchait en plus, donc je me suis dit, c'est top. Donc j'avais, si tu veux, acquis ces méthodes-là, l'essence cacou, il y avait ce côté un peu plus décontracté et avec plus de place à la créativité, je me suis dit, finalement, chez Énergie, je vais pouvoir appliquer les deux.
Ouais.
Et quand je suis arrivée chez Énergie, ça a été un carton tout de suite.
Bah, j'ai vu
tout
ça, j'ai vu que tu avais, enfin, je crois
je
que les chiffres,
bien tout de suite.
C'est que tu as triplé les ventes en un an et que tu es passée directrice commerciale, genre hyper rapidement. Du coup, bah, une des questions que je voulais te poser, c'est, enfin, ça paraît presque miraculeux, entre guillemets, surtout c'est l'un de tes premiers jobs. Quelle méthode, donc, est-ce que tu as appliquée pour arriver à ces résultats qui sont complètement hors normes? Donc, tu parles de programmation neurolinguistique, c'est ça? Que tu avais appliqué, en fait, de ton expérience précédente quand tu étais chez Chantel.
Oui.
Tu peux me raconter un petit peu en quoi ça consiste?
Je te donne un exemple très concret qui va te parler. Tu vas voir un commerçant. Tu connais bien le sujet. Bon, à l'époque, donc le groupe Chantel, je vendais de la distribution sélective, c'est-à-dire de la lingerie.
Ouais.
Et le truc tout bête, tu vois, quand tu rentres dans une boutique comme ça, il ne faut jamais demander à un commerçant comment il va. Jamais.
D'accord.
Parce que si tu lui dis « Bonjour, comment ça va ?»
Il va te dire que ça ne va pas.
Un quart d'heure, il va te dire que ça ne va pas. Problème de stationnement, circulation, le gouvernement fait n'importe quoi.
Enfin,
mais ce qui est vrai. En revanche, si tu rentres dans sa boutique en ayant quand même préalablement regardé sa vitrine et tu rentres en disant « Ah, très intéressant ce que vous avez fait dans votre vitrine. Mmh. Vous avez passé du temps à faire ça ?» Boum. Tout de suite, tu l'engages sur quelque chose de positif, de constructif, qui va complètement écarter la partie plainte. Mmh. Donc déjà, tu le mets dans une disposition, on va dire... positive.
Puis tu gagnes du temps.
Tu gagnes du temps et tu fais en sorte de poser des questions où tu sais quasiment qu'il va te dire oui.
D'accord.
Tu vois, donc tu le mets dans une position
positive. Donc au début, tu fais exprès de poser des questions où il va dire oui.
Ouais.
D'accord.
Et ce qui fait qu'à un moment donné...
C'est génial.
C'est terrible. Il est prêt.
Il est prêt.
Il est disponible pour t'entendre et pour justement écouter ton histoire, idéalement y croire et évidemment, à un moment donné, acheter ou commander quelque chose. Donc, c'est ça, la programmation neurolinguistique, c'est si tu veux, c'est te mettre en situation. Finalement, tu te mets à la place de l'autre et tu essayes d'anticiper tout ce qui va être dit, notamment sur l'angle négatif. Et donc, tu le démines avant, quoi. Tu vois, par des questions très précises. Il y a une sorte de protocole quand même. Donc, tu as ça. Donc, tu te prépares, en fait, dans ta tête à une sorte de scénario. Hein. Tu sais, la vente, c'est du théâtre quand même. Et la programmation neurolinguistique, franchement, pour ceux qui la pratiquent,
ça fonctionne.
Te le confirmant, ça fonctionne.
Oui, oui.
Moi, je le repratique aujourd'hui dans le cadre du sport.
Ah oui.
Je fais.
Alors vas-y, raconte-moi
plus
ça.
En plus de cheval.
Je sais que tu fais énormément d'équitation, ouais.
Et si tu veux, quand tu prépares un parcours, donc en saut d'obstacles, tous les profs, tous les coachs te disent, avant de rentrer sur la piste et d'enchaîner tes 12-15 barres, il faut que préalablement, idéalement, tu visualises ton parcours.
C'est ça.
Tu saches exactement à quel moment tu vas sauter, où tu vas tourner, comment tu vas prendre telle barre ou telle auxerre. Et je t'assure, alors je n'ai pas encore le niveau que j'aimerais avoir en équitation, mais donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à appliquer tout le temps.
D'accord.
En revanche, ce que je constate, c'est que le peu de fois où j'ai réussi à prévisualiser mon parcours en mode succès, évidemment, eh ben, j'ai gagné.
Ouais.
Donc, c'est vraiment des méthodes qui fonctionnent.
Oui, ouais, c'est de la préparation mentale. Tu te mets un peu dans un état. Il y a beaucoup de... J'aimerais bien d'ailleurs un jour inviter quelqu'un sur le podcast sur ce sujet, mais il y a beaucoup de coachs sportifs, notamment de préparation. d'acteurs, d'athlètes de haut niveau qui travaillent énormément justement cette préparation mentale et qui mettent les gens presque dans un état de concentration tel qui est proche de l'hypnose en fait, où tu t'es en automatique total, t'as tellement prévisualisé ton cheminement, etc., que ensuite t'as plus qu'à dérouler et t'es même pas vraiment en train de réfléchir. Et je pense que c'est un peu l'objectif, Mais c'est marrant que t'en parles aussi pour la vente, parce que je t'avoue que je m'étais jamais posé la question, mais maintenant que tu le dis, ça paraît assez évident que quand tu débarques dans une boutique pour vendre de la lingerie ou peu importe ce que tu vas vendre, débarquer et juste ne pas mettre la personne dans un état positif, juste interrompre en fait ce qu'il est en train de faire pour lui vendre quelque chose, c'est évidemment la personne, elle va te rejeter. Il faut préparer la personne, ça paraît assez évident.
Exactement. Et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné très vite chez Énergie, si tu veux, parce que j'avais vraiment des méthodes de vente avec moi. En plus, bon, après, l'autre secret, c'est le boulot. Y a pas de mystère, si tu veux. Il faut quand même, en termes de prospection... Mais j'arrêtais pas, quoi. J'étais vraiment plus. J'ai connu l'époque magique de Énergie où les commerciaux n'avaient pas de plafond en termes de rémunération.
D'accord. Ah oui, donc ça les incentivait énormément.
Mais pour quelqu'un, si tu veux, qui en voulait, c'était extraordinaire. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que ça a tout de suite fonctionné. Si tu veux, il y avait d'un côté les techniques de vente, de l'autre côté beaucoup de boulot.
Donc toi, en fait, tu faisais la formation, tu le faisais toi, les techniques de vente personnellement, mais aussi assez rapidement, quand tu es devenue directrice commerciale, je pense que tu devais former, j'imagine, les équipes aussi à ça. Et par ailleurs, en plus, tu as mis en place de la prospection. Tu avais des méthodes sur la prospection pour, je sais pas, comment tu démarches quelqu'un ?
Écoute, alors, à l'époque, en tout cas, chez Énergie, sachant que la prospection, à l'époque, je me souviens, mais c'était encore des fiches Bristol cartonnées, quoi. Ouais. Tu te rends compte ? Enfin, c'est fou comme ça a évolué. Et on parle des années 80. Je suis rentrée chez Énergie en 95, tu vois. Je suis rentrée en 95, j'ai dû partir en 2001, quelque chose comme ça. Bon, bref. Écoute, à l'époque, on avait déjà quatre stations, Énergie, Chérie FM, Rire et Chanson, Nostalgie. Donc, en fait, moi, la prospection que j'avais organisée pour les équipes, c'était en fonction des cibles prédominantes de chaque station. Tu déterminais un potentiel de secteurs pertinents en fonction des 15-34 sur Énergie, plutôt des femmes, sur Chérie, plutôt des hommes, sur Rire et Chanson et plutôt des seniors sur Nostalgie. Donc en fonction de ça, tu établis une liste qui n'est pas totalement exhaustive, mais enfin qui est quand même assez complète. Puis après, il n'y a pas de mystère, quoi.
Tu t'appelles.
T'appelles, tu te déplaces. On était très présents également sur tout ce qui était salon. Tu vois, enfin, la prospection dans le dur, c'est super dur.
Ah bah ouais, parce que le coup de fil, nous, on reçoit beaucoup de coups de fil de vendeurs qui essaient de nous demander des choses chez Gémio. Et je dois dire qu'à la fois, bon, bah, souvent, je réponds pas positivement. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est un métier tellement difficile d'avoir en permanence à décrocher son téléphone et savoir que tu vas te prendre des noms. mais quasi dans 90% des cas.
C'est très dur, c'est très ingrat, mais ce qui te fait tenir, bah, c'est que...
Ça marche quand même.
Bah voilà, tu vois, t'as rencontré 15-20 boîtes, et ben si t'en transformes deux ou trois dans la journée, bah c'est, tu vois, c'est... Voilà, ça le fait, quoi. Mais Énergie, c'était ça, parce qu'en fait, je me souviens, à l'époque, il y avait des commissions sur les nouveaux clients. Donc, t'étais mieux rémunéré sur le newbies. Donc, autant te dire que si tu avais un peu de volonté, bah, t'y allais, quoi.
Et pour toi, si on continue sur le sujet un peu commercial, qu'est-ce qui, au-delà de la formation que tu as eue, au-delà des techniques que tu as mises en place, est-ce qu'il y a un talent que tu penses être un talent important pour être un bon commercial, que tu as identifié dans des équipes, quand tu vois des gens vraiment doués ?
Ouais, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais de curiosité. Donc, curiosité qu'on pourrait mettre dans l'écoute, tu vois, c'est-à-dire vraiment s'intéresser aux gens. Moi, c'est ce que je répète à mes équipes en permanence. Du reste, c'est très vrai aussi dans le management. Il faut vraiment accorder une part à l'écoute, à la curiosité, à s'intéresser à la personne qui est en face de nous. Mais c'est tellement fondamental.
C'est tellement rare.
C'est rare. Et deux... Souvent, quand tu pratiques ça, mais tu as toutes les réponses. Parce que quand tu t'intéresses aux gens, pour de vrai, il y a une démarche sincère aussi qu'il faut avoir. Hein. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très spécifique qui explique aussi le talent de quelqu'un. C'est une démarche qui doit être sincère, l'écoute, les questions, la curiosité. Du coup, tu t'intéresses à la personne, tu comprends mieux ses objectifs, tu te mets à sa place, tu pratiques l'empathie. Et donc, tu comprends exactement sa problématique et ses objectifs. Et du coup, tu réponds parfaitement à ce qu'elle attend. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours passé énormément de temps sur l'écoute, sur la compréhension de ce que fait la personne qui est en face de moi, parce que souvent, ça m'intéresse, vraiment.
Non, mais ça sent.
Et à partir de là, bah, une fois que tu comprends bien les choses, tu peux, encore une fois, adresser la bonne solution. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans la réussite commerciale. Mm-hmm. C'est rare. Parce que les gens, ils ont tous tendance à parler d'eux,
oui.
à déballer leur boîte à outils sans même savoir ce dont la personne a besoin, ce qui est terrible. Alors que les fondamentaux du relationnel, c'est avant tout l'écoute, l'empathie.
Mais c'est rigolo, il y a un livre là-dessus, qui est, je crois, d'un auteur qui s'appelle Zig Ziglar, je le mettrai dans les références. C'est un homme qui était aussi un commercial, enfin un grand vendeur, on va dire, et qui dit, en fait, le paradoxe de la vente, c'est que très souvent, on pense qu'il faut beaucoup parler. En fait, il faut très peu parler, il faut beaucoup faire
Exactement.
Parler l'autre, et en fait, être assez silencieux quand on fait de la
Exactement.
Vente.
Exactement. Ouais. Mais c'est très vrai. Et faire parler l'autre, reformuler,
ouais.
déjà pour t'assurer que tu as bien compris, et pour l'amener à te dire « oui, c'est bien ça ». Et après, tu fais le reste.
Génial. J'aimerais quand même parler évidemment de tes autres aventures après Énergie. Donc, tu finis par quitter Énergie et par prendre le risque, pour le coup, de croire à la presse gratuite en la marque Métro. Est-ce que là aussi, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, comment tu as pris cette décision, comment est-ce que tu es arrivé à cette opportunité aussi?
Alors, écoute, ça faisait 7 ans que j'étais chez Énergie. Il y avait eu un changement de directeur général, Alain Veil.
Ouais.
Venait de quitter le groupe. Moi, je venais de faire ma petite fille, Lucie. Et quand je suis revenue, c'était plus le même patron, c'était plus la même ambiance. Bon.
Ça faisait 7 ans aussi, quand même.
Ça faisait 7 ans. Et il se trouve que je me fais chasser pour prendre ce défi de lancer le journal gratuit Métro en France. Journal que je ne connaissais absolument pas. Mais
qui
absolument
en fait
pas.
Est une inspiration US,
suédoise,
d'accord.
Suédoise. Et en fait, ça, on devait être en 2001.
D'accord.
Et le journal gratuit avait été lancé en Suède, donc à Stockholm, en 1995. Donc, ça faisait déjà quelques années que ouais. ça cartonnait. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et donc, voilà, elle me raconte l'histoire. Je me dis, c'est pas mal comme concept, finalement, offrir un journal d'information avec une contrepartie qui est le financement. Mm-hmm. Si ce n'est pas vous qui payez le journal, c'est la pub qui va financer ce truc-là.
Ouais.
Et je trouvais ça super malin. Quoi. Si en fait, c'était au même moment, c'était le début d'Internet,
bah oui, hein,
dans les 95, dans les années 2000. Donc, tu avais déjà ce New Deal, entre guillemets, où tu inversais pas mal la relation. Alors aujourd'hui, ça paraît banal. À l'époque,
oui, c'était très récent.
C'était vraiment très nouveau, tu vois. Et ça m'a vraiment tenté. Et je me souviens, à l'époque, j'en avais parlé avec une de mes collaboratrices chez Énergie, qui était la patronne du marketing de la marque Énergie, Florence Hermelin. C'était une fille vraiment brillante, qui est toujours d'ailleurs, qui a un super job aujourd'hui en agence, qui était très branchée sociaux, études sociologie, etc. Et je lui ai demandé son avis. Est-ce que tu crois à ce genre de choses? Elle m'avait dit oui, pour plein de raisons, bon, je ne vais pas détailler là. Et si tu veux, moi, intuitivement, j'avais bien senti le truc et le fait d'avoir son avis à elle...
Que tu respectais en plus.
Que je respectais beaucoup, je me suis dit, j'y vais.
Pas
et je
ne
me
ça.
Suis pas posé de questions. En plus, c'était mon premier job de direction générale. Donc, je me suis dit, de toute façon, ce sera coup double ou alors la double peine. Soit je réussis vraiment dans un nouveau modèle qui s'imposera ou pas, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que j'arriverai également à être une bonne directrice générale ou pas, parce que c'était la première fois finalement que je m'aventurais dans ce niveau-là hiérarchique. Et donc, j'ai pas hésité. Je me souviens que ma mère était très inquiète.
Ouais.
Mais pourquoi ma fille t'a quitté Énergie, t'étais bien, etc. Globalement, tout le monde était inquiet autour de moi. Tout
bah, surtout que t'étais quand même sur une carrière parfaite, entre guillemets,
chez Énergie. Ça allait bien, mais bon, tu vois, à un moment donné,
j'étais un peu dans ta zone de confort. Quoi.
Ouais, exactement. Et puis, ça m'a vraiment amusée. J'y ai cru. Et quand j'ai rencontré, évidemment, le patron de Métro, qui s'appelait à l'époque Pelle Thornberg, une sorte de Richard Branson, tu vois, même genre, tu vois, super séduisant, sûr de lui sans être arrogant, je me suis dit, mais c'est génial. Et puis en Suède, c'était les rois, c'était des rois du monde, hein, le groupe Kinevi qui existe encore d'ailleurs. Mm. Et voilà, donc ça a pas, si tu veux, dans ma tête, c'était...
Ça a été assez rapide, quoi,
assez
finalement.
Rapide.
Et quand t'es arrivée là-bas, du coup, quel a été ton... Enfin, il y avait des équipes en place, quel a été un peu le job au début quand t'arrives et que... Bah, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que t'avais pas cette expérience-là de tout créer. Là, tu deviens DG de métro et tu dois lancer, créer. Quels ont été, en gros, en deux mots, les premiers mois? Comment ça se passe?
Écoute, tu arrives, alors il y a... quelques personnes, parce que bon, les équipes de métro internationales avaient fait quand même un premier boulot, mais enfin, il y avait quoi, une vingtaine de personnes, des journalistes. Oui, donc, ça, c'était la première fois que j'étais amenée à travailler avec des journalistes, avec heureusement un super directeur de la rédaction, Didier Pourquerie. Mais si tu veux, c'était une population que moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, tu arrives en te disant bon, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a les journalistes, il y a la finance.
Oui.
J'avais jamais dirigé à la base. Je suis développeuse. Je suis pas.
T'es pas financière.
Je suis pas du tout financière. Tout ce qui était marketing, développement, pas de problème. Mais la finance, c'est un truc que je ne connaissais absolument pas. Pour le coup, les Suédois m'avaient mise à l'aise très rapidement. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, la finance, c'est nous. Donc, on va voir le budget avec vous en chaque début d'année. Et après, tout se décide à Londres, vous inquiétez pas. Et finalement, ça m'a arrangé. Et en fait, quand tu arrives dans un terrain comme celui-là, qui est quand même assez nouveau dans pas mal de choses, moi, ça a été mon réflexe, c'était de me dire, bon, concentrons-nous sur ce que je sais très bien faire, c'est-à-dire développer. Et du reste, à l'époque, le CEO de Métro International, c'est ce qu'il m'avait demandé. Il m'avait dit, nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous développiez le marché de la pub, parce que c'est le seul revenu de l'entreprise, donc c'est critique pour nous. Donc, en fait, je me suis concentrée, j'y suis allée étape par étape. C'est-à-dire que je me suis imposée d'abord par ce que je savais faire, c'est-à-dire marketing, commercial, et ça a été un carton tout de suite. Une fois que j'avais fait cette démonstration, du coup... les équipes de Londres m'ont beaucoup plus impliqué dans la finance et m'ont expliqué ce qu'il fallait que je regarde, les tableaux de bord, les KPIs, et ça évidemment ça me sert toujours beaucoup aujourd'hui parce que apprendre la finance avec des Anglais c'est super efficace. Donc ça m'a vraiment formé là-dessus. Et avec la rédaction, les choses se sont faites finalement assez naturellement, sachant que tu diriges jamais des journalistes, jamais. Tu essayes de les convaincre, tu fais en sorte qu'ils s'approprient les choses.
Indépendance de la presse en même temps.
Oui, et c'est très bien comme ça. Mais tu vois, tu as un temps pour l'intégrer, pour l'accepter, et puis après, ça roule. Et dès l'instant, en fait, où tu es très à l'aise parce que tu performes, parce que très vite, on a été sur une phase ascendante et assez rapide, du coup, tu es dans cette spirale vertueuse, où tu as plein de bonnes idées, où tu démultiplies plein de partenariats à l'époque. Tu vois, c'était pas rien pour nous à l'époque. On avait détrôné le Parisien sur des partenaires sportifs comme le Stade français à l'époque,
qui de rugby. Mais je me rappelle, il y a une époque, c'était en plein là-dedans quand ça a démarré. Métro, c'était énorme. Vraiment,
c'était
tout le monde
génial.
Il faut dire, à l'époque, il n'y avait pas de mobile. Donc les gens dans le métro, ils faisaient que ça.
Ouais. Et en fait, si tu veux, en développant tous ces partenariats, surtout dans le milieu sportif, finalement, la rédaction m'a très vite respectée, tu vois, parce qu'ils voyaient bien que tout ce qu'on faisait, c'était bon pour le journal, c'était bon pour son image, pour son positionnement. Et à partir du moment où on a gagné de l'argent, c'est assez vite, tu vois, on a gagné de l'argent la troisième année du lancement. Après, c'était
acquis,
que du bonheur. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et finalement, et donc, tu confirmes ton positionnement et les choses se font naturellement. Et c'était une expérience extraordinaire que je n'oublierai jamais. Mais vraiment.
Et j'ai entendu dire justement que cette expérience t'avait même amené dans la suivante à partir avec une... Pas partir de façon intentionnelle, mais t'avais une partie des équipes de métro qui t'avaient suivi. T'avais eu une extrême loyauté, en fait, des personnes avec lesquelles t'avais travaillé à l'époque. Donc, on peut en parler quand t'es parti aussi pour redresser la tribune.
Ouais.
Ça m'intéresse beaucoup cette particularité parce que finalement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare, cette loyauté finalement aussi forte. Et toi, j'ai vraiment l'impression que ça te caractérise en fait de réussir à, comme peut-être tu t'intéresses aux gens, à vraiment créer en fait un groupe de personnes qui croient en toi et qui croient en tes projets et qui ont juste envie de te suivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait de manière consciente? comment ça s'est passé dans le cadre du transvasement entre métro et la tribune.
Consciente, je sais pas, mais tu sais que ces gens-là, ils sont aujourd'hui chez Média Transport. C'est l'histoire ne s'arrête pas. Je pense que, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que les gens, si tu veux, aujourd'hui, ils ont bien compris. Je suis quelqu'un, effectivement, bon, d'exigeant, hein, ça c'est sûr. Je suis super exigeante avec moi-même d'abord, mais aussi avec mes équipes. Mais je suis super juste. Ça, ils le savent aussi. Et encore une fois, je suis beaucoup dans l'écoute. Donc, si tu veux, d'un point de vue management, je pense que ce qui est fondamental, c'est évidemment d'avoir une vision. J'en ai une. Enfin, j'ai réussi à chaque fois à avoir la bonne vista là où j'étais. Il faut de l'énergie, j'en ai pas mal. Et il faut être juste. Pour moi, c'est vraiment les trois, si tu veux, les trois mots-clés du bon manager. J'ose me considérer comme un bon manager parce que les résultats sont là et effectivement les équipes sont fidèles. Je pense que si les équipes sont fidèles, c'est parce qu'elles apprécient justement cette intégrité, cette transparence. On me l'a parfois aussi reproché hein, d'être trop cash. Mais je dirais que les gens qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire sincères et intègres,
se reconnaissent
et reçoivent assez bien des mots parfois qui peuvent être durs, mais justes, et surtout qui correspondent à une vraie réalité. Dès l'instant où, encore une fois, tu es dans ce rapport vrai avec des gens qui sont disposés à recevoir la vérité, ce qui est loin d'être la majorité des gens, effectivement, là, il y a une relation super loyale, super fidèle qui s'établit et qui est magique. Moi, il y a des gens, malheureusement, ça fait partie aussi du management, où tu es bien évidemment aussi obligé de te séparer des gens, parce que ça ne va pas pour plein de raisons. Pas seulement pour des sujets d'incompétence professionnelle, souvent pour des questions d'état d'esprit. Moi, c'est beaucoup ça qui m'a fait parfois arriver à des décisions assez irréversibles. Eh bien, je ne vais pas dire avec tout le monde, mais la grande majorité des cas, les gens que j'ai dû licencier à un moment donné ne m'en ont jamais voulu parce que ça n'a jamais été une surprise. Tu vois, je leur ai toujours dit, là, attention, va falloir améliorer. Ok.
Deuxième justement, fois. J'allais te poser la question, tu as un peu un cadre que tu respectes dans ce genre de cas quand ça ne se passe pas bien?
Oui, c'est déjà de dire clairement aux gens ce que tu attends d'eux.
Ouais.
Les gens, je veux dire, si tu veux le meilleur des gens, si tu veux qu'ils t'apportent quelque chose, encore faut-il être très précis. Clair et précis.
Tu pourrais me donner un exemple juste pour que ça soit clair, enfin, même inventé ou quelque chose dont tu te rappelles sans citer de nom, évidemment, d'une personne, pas d'une personne spécifiquement, mais je veux dire d'un exemple d'objectif, par exemple, pour quelqu'un.
Bah, précisément, après, ça dépend des situations, mais tu peux, par exemple, demander à ton directeur financier à un moment donné, au-delà de surveiller ton DSO, de faire en sorte que bon les achats soient le mieux contrôlés possible, tu peux aussi lui adresser des objectifs très spécifiques, notamment sur des ressorts financiers que tu peux mettre en place un peu décalés. Par exemple, là en ce moment, on est beaucoup dans tout ce qui est achat responsable. Bon, tu vois, de dire à un moment donné à ton directeur financier, oui, tu es là pour minimiser mes coûts, oui, tu es là pour assurer une bonne trésorerie, mais tu es là aussi pour participer à une démarche RSE.
Ouais.
Donc, comment finalement ce qu'on peut gagner d'un côté en économie, on peut également le réinjecter dans une politique d'achat responsable qui, a priori, va te coûter plus cher. Mais ce n'est pas très grave, tu vois, d'avoir à chaque fois, chaque année, donc c'est des objectifs que tu redonnes
chaque année,
tous les ans.
C'est une fois par an.
Une fois par an, bah, dans le cadre d'un entretien annuel, principe que tu as avec tous tes patrons, tu refais le bilan de l'année et tu leur dis, bon, l'année prochaine, je voudrais que tu réfléchisses à ça. Je voudrais que tu réfléchisses, par exemple, à le parc de voitures que nous avons pour les collaborateurs. Est-ce que tu peux travailler sur l'impact si on passait sur le tout électrique? Tu vois, c'est des exemples très concrets
Mais que je super. Te donne. C'est parfait.
Mais du coup, tu vois, tu peux
donc
comprendre.
Donc, un objectif vraiment précis, quoi. Donc, ça, un c'est la première étape,
Et puis, ou alors après, pour les commerciaux, tu vois, des choses... Alors là, c'est tout bête, c'est des objectifs assez génériques, mais c'est d'avoir un état d'esprit positif, ne pas dénigrer la concurrence, ça sert à rien. Parler de soi dans les meilleurs termes possibles, respecter les règles de l'entreprise, avec parfois des choses fastidieuses à faire, mais il faut les faire, tu vois. C'est en fait des préalables. Donc, et tu vois, il y a eu beaucoup de gens qu'on a dû sortir parce qu'ils n'acceptaient pas ça. Donc, mais encore une fois, je pense que le rôle du manager, c'est de dire exactement à la personne ce que tu attends d'eux, dans quel timing tu attends de ce résultat. Et j'irai après, si c'est pas fait, soit il y a des bonnes raisons et tu recales et tu redéfinis, soit il n'y a pas d'explication, tu l'as dit une fois, deux fois, trois fois, c'est fini, quoi.
D'accord.
Tu vois, ça fait... Je pense que c'est ça qui explique que les gens, en grande partie m'ont suivi parce que finalement, le fonctionnement, ils le connaissent.
Oui, ça ne va pas surprendre. Et justement, au niveau des personnalités, du coup, j'imagine que tu es forcément amené à avoir des personnes qui acceptent le feedback, qui acceptent ton côté cash, comme tu dis. Comment tu fais pour savoir au moment des entretiens ou de la rencontre avec les personnes que ces personnalités vont te correspondre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des signaux, on va dire, qui te viennent à l'esprit?
Je t'avoue que ça reste toujours super difficile de recruter la bonne personne.
Mais c'est bon à savoir que même pour toi, entre guillemets, alors que tu l'as fait...
Ah oui, et puis je continue à faire des erreurs. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, dans l'entreprise. C'est de trouver la bonne équipe, de recruter les bonnes personnes. Donc, écoute, moi, il y a un truc que je fais souvent, c'est qu'après l'entretien, je demande souvent à la personne de m'écrire. Tu vois, là, faites-moi un mail, juste pour voir si vous avez bien compris ce que j'attends de vous, de reformuler un petit peu cet entretien et de me dire pourquoi c'est vous, Pauline, et pas une autre. En général, la personne me dit « Ah bon, mais il y a un cadre spécial. » Non, ça, c'est vous. C'est parce que c'est là où tu peux découvrir le style de la personne. Et c'est vrai que c'est un petit truc quand même que j'aime bien faire parce que ça te permet de voir l'esprit de synthèse. Ça te permet déjà, évidemment, de voir si la personne
a compris
hein, quand même, accessoirement.
Mais ça ne doit pas être toujours le cas, en plus.
Non, parfois, ça part un peu dans des considérations... qui sont finalement pas du tout essentielles, tu vois. Mais bon, c'est intéressant. La motivation, c'est-à-dire tu vois à quelle vitesse la personne t'envoie ce mail. C'est par mail, en général, je demande ça. Donc, tu dis, bon, est-ce que la personne a envie ou pas ? Est-ce qu'elle a bien compris ? Est-ce que j'aime bien sa façon d'écrire ? Est-ce que... parce qu'à l'écrit, des fois, on se vend mieux, plus facilement aussi qu'à l'oral. Donc, finalement, elle peut te révéler des choses à l'écrit sur ses compétences ou ses qualités qu'elle n'a pas forcément exprimées. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et puis après, j'ai des questions souvent récurrentes.
Tu peux m'en donner ?
Ouais. Par exemple, souvent, je pose la question à un collaborateur... qu'est-ce que vous attendez d'un manager ? Donc, c'est une question très ouverte. Qu'est-ce que vous ne supportez pas du tout chez un manager ? C'est deux questions que je pose l'une après l'autre.
C'est intéressant.
Ouais.
Et t'as quoi comme réponse en général ?
Alors, très souvent, qu'est-ce que j'attends d'un manager ? C'est qu'il me fasse confiance, c'est qu'il m'accompagne, c'est qu'il me donne un cap. Souvent, c'est ça. Et c'est assez normal. Qu'est-ce que vous ne supportez pas du tout chez un manager ? Assez logiquement, c'est la mauvaise foi. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Alors ça, c'est là où
c'est pas mal. Du coup, t'as la petite, t'as carrément ton script.
Et ben, soit je l'exprime tout de suite, soit je l'exprime pas. Donc là, tu commences à voir les gens
ça,
qui ont justement,
bon.
Tu dis, oui, celui-là, il va me foutre la merde, très clairement. Ou au contraire, celui-là est capable de dire les choses de façon constructive et pas forcément négative. Donc ça, c'est des questions pour moi qui sont assez essentielles parce que ça te permet de voir comment la personne réagit en cas de succès et surtout, ce qui est le plus intéressant, en cas de difficulté. Parce que c'est là où les gens se révèlent. C'est là où tu vois la vraie nature des gens, jusqu'où ils sont capables d'aller. C'est quand c'est compliqué, quand il y a la pression. Donc, je trouve ça, c'est des questions que je pose souvent. Après, tu peux avoir des petits malins qui te font des réponses toutes faites. Bien sûr. C'est pour ça que malheureusement, je continue à me tromper en recrutement.
Bien sûr. Bah écoute, c'est le cas. Je pense que c'est malheureusement c'est le cas de tout le monde, mais c'est aussi que comme tu dis, les circonstances aussi quand on travaille sont parfois tellement différentes et puis les jobs évoluent. Enfin, tu vois, c'est pas évident. Pour avancer un peu, parce que le temps passe et on a encore plein de trucs à se dire, je voulais parler de la tribune quand même. On a parlé peu de temps de métro, mais tant pis. La tribune, qu'est-ce qui te donne envie de prendre ce risque fou de redresser la tribune? Là aussi, je te pose un peu toujours la même question, mais qu'est-ce qui fait que tu passes donc de métro, qui se passe quand même très très bien, à quand même une entreprise en difficulté qu'il faut complètement relancer?
Écoute, chez Métro, ça faisait 7 ans, le journal tournait super bien, on gagnait de l'argent, le confort s'était un peu installé. Moi, je voulais développer la partie appli mobile parce que...
Tu sentais bien que...
Bah oui, puis en l'occurrence, mon concurrent 20 minutes avait pris de l'avance là-dessus, ça m'énervait un petit peu, et surtout qu'ils avaient raison de le faire. Et j'avais un peu de mal à me faire entendre par les Suédois. Bon, ça, c'est un peu le contexte, ça commençait un petit peu à m'agacer. En me disant, ils se trompent, tu vois, ils font une erreur stratégique de ne pas y aller. Et puis, parallèlement, Alain Veil.
Toujours.
Qui me fait cette proposition. Donc, si tu veux, Alain Veil, il avait déjà monté Next Radio, il était déjà super successful avec RMC qu'il avait adressé de façon spectaculaire. Il avait lancé avec succès BFM Télé. Donc, quand tu as un patron comme ça, hyper charismatique, qui réussit tout ce qu'il fait, qui t'appelle pour te dire j'aimerais bien le faire avec vous, bah déjà ça te fait plaisir.
Ouais, c'est clair.
Et ça te donne envie. Donc il m'a donné envie et je me suis dit, et c'est ce qu'il m'avait dit aussi, si tu veux, ce qui l'intéressait chez moi, sachant qu'on s'était évidemment connus, on avait travaillé ensemble déjà beaucoup chez Énergie, il m'a dit moi ce qui m'intéresse justement, c'est l'expérience que tu as eue chez Métro. Donc on va réinventer ce modèle de la presse payante qui est en train de mourir. Mmh. On va vraiment revoir le modèle ensemble. C'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, c'est génial. Finalement, ce que j'ai réussi à faire, moi, chez Métro, et ce que Alain a réussi à monter au niveau de son groupe, on va y arriver. Mmh. Parce que tous les deux, on avait cette même faculté à retourner le modèle. À l'époque, c'était pareil, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, mais dans cette disruption, maintenant tout le monde en parle, mais nous, on a vraiment réfléchi beaucoup aussi avec Eric Israelevitch, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui avait été notre directeur des rédactions. Donc, on avait énormément réfléchi tous les trois sur la façon de réinventer le modèle de la presse payante, de revoir le positionnement du titre. Et moi, j'y croyais. Je me suis dit... On le savait avec Alain, on savait que ça allait être dur.
Ouais, bien sûr.
On le savait. Hein. Mais on s'est dit, ça se tente. Bon. Sachant que, si tu veux, on avait quand même vite détecté pas mal de sources d'amélioration d'un point de vue gestion.
Ouais.
Donc, on s'est dit, on va y arriver. Ça. Sauf que bon, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, personne.
Oui, c'est la crise.
C'est les crises financières. Et ça a été super compliqué. Mais si tu veux, c'est à chaque fois, c'est le même driver chez moi. Hein. C'est-à-dire que souvent, il y a, c'est évidemment souvent le projet, le concept qui m'attire ou pas, qui me parle ou pas. Je me suis jamais demandé si je me sentais capable. Je me suis toujours dit, dès l'instant où j'y crois, je vais y arriver.
Puis si on vient te chercher toi, c'est que les gens pensent que tu es capable aussi. Enfin, tu vois.
Oui. Mais je dis ça parce que tu sais que c'est malheureusement souvent des questions que se posent les femmes, pas les hommes. Mmh. Est-ce que je suis capable? Bon, moi, je ne me suis jamais posé la question.
C'est une grande chance. Enfin, c'est une chance.
Ouais, mais aussi, je pense, parce qu'il y a toujours eu, effectivement, comme tu le dis, quand tu as des patrons comme Alain Veil, Jean-Paul Baudecroux, Pelle Tandberg, qui était une vraie star hein, dans les pays scandinaves à l'époque, qui viennent te chercher, bah, ça te met en confiance. Et puis, tu as quand même, à un moment donné, ça fait partie du package, quoi, le patron pour qui tu vas bosser. Tu vois, quand tu bosses comme pour un patron comme Maurice Lévy,
c'est inspirant.
Ça te donne de l'énergie, quoi. Tu vois, donc ça a toujours été finalement les mêmes dispositions ont fait que dès l'instant où toutes ces conditions étaient réunies, j'y vais.
T'y vas, tu te poses pas de questions.
Top.
Et donc Mediatransport maintenant.
Ouais.
Donc bah alors juste quand même l'époque quand même pour revenir sur la tribune, donc ça, malheureusement oui. Ça se passe pas très bien.
Non, ça a été très compliqué.
Est-ce que tu peux juste me dire, alors je voulais parler de moments difficiles parce que j'aime bien parler de ça, soit de moments difficiles, soit d'erreurs, soit d'échecs, pas nécessairement donc la tribune à la rigueur si c'est pas ce qui t'a appris le plus, mais surtout pas forcément pour s'apesantir sur le fait que c'était douloureux etc, mais plus pour comprendre ce que t'en as retiré réellement, et tu dirais quelles sont vraiment les grandes erreurs ou les grands enseignements que tu as pu tirer de alors c'est pas de la tribune ou d'autres expériences.
Alors c'est la tribune, c'est un échec hein. Enfin moi je l'assume totalement. Écoute, on a quand même fini par déposer le bilan, donc bon c'est quand même un échec. Bon, après la marque existe toujours, tu vois, qui est dirigée par Jean-Christophe Tortora, qui fait un super boulot. Mais bon, d'ailleurs, quand tu amènes un journal au tribunal de commerce de Paris, c'est très douloureux, je peux te le dire, surtout t'as le profil qui est le mien, c'est-à-dire quelqu'un de développement qui avait jusqu'à présent tout réussi, qui était vraiment dans une démarche positive. Bon, donc c'est un vrai coup dur. Donc il y a ce moment où tu vois le truc arriver, mais t'y crois pas parce que tu te bats jusqu'au bout. Tu vois,
j'allais te demander battue, en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un moment où tu commences à te dire là on va bientôt arriver au tribunal du commerce s'il n'y a pas un retournement et
tu cherches
toutes les solutions, mais tu
si tu veux sachant qu'on avait quand même toutes les difficultés en même temps, hein. Parce qu'on cherchait de l'argent, il fallait restructurer le journal, on avait complètement revu le positionnement éditorial à l'époque avec François Langlais, enfin, on avait, et la deuxième secousse, parce qu'on parle beaucoup de la crise financière de 2008, il y a eu la deuxième secousse de 2011, et c'est celle-là qui nous a mis à terre. C'est celle-là qui nous a mis à terre. Quand les États-Unis ont été dégradés du triple A au double A, celle-là, ça a été... La crise de trop. Donc, oui, tu le vois arriver parce que moi, je m'étais quand même placée sous procédure de sauvegarde, qui est l'équivalent du Chapter 11 aux États-Unis. Ouais. Donc, on était.
Qui est avant la liquidation judiciaire,
exactement.
En fait, qui est un moment un peu tampon où on essaie justement de redresser.
De geler ta dette.
Exactement.
Donc, ça te permet en fait d'optimiser ta trésor, qui quand tu cherches des fonds, c'est quand même pas neutre.
C'est sûr.
Donc, on avait pris vraiment avec mon directeur financier de l'époque, Gauthier Normand, les bonnes décisions, vraiment, je pense. Sauf qu'à un moment donné, l'administrateur, tu vois, il avait beau nous voir nous battre, il nous a dit à un moment donné, va peut-être falloir arrêter, là c'est sans issue. Et là, tu comprends que oui, effectivement, t'as plus de solution, quoi. Tu vois, on avait fait 80 roadshows, tu vois, en banque d'affaires pour trouver des investisseurs.
Vous
on avait trouvé
pas.
Plein des investisseurs. On n'avait pas trouvé le leader. Tout le monde voulait suivre. Ouais. Mais personne ne voulait être le premier. Pourquoi ? Parce que on devait mener un plan social que finalement, j'avais retardé. En fait, si tu veux, quand Alain Veil m'a donné vraiment les clés du journal, parce que j'avais du coup récupéré 80% du journal et Alain en avait gardé 20%, à ce moment-là, donc on sait qu'il faut trouver des fonds, il faut lever des fonds rapidement, on sait qu'il faut quand même restructurer le journal, mais on se dit à l'époque, avec le directeur de la rédaction, on va attendre de trouver l'investisseur pour faire le plan social.
D'accord.
Erreur. Voilà. Tu vois,
il faut commencer.
Qu'est-ce que je retire de cette expérience ? Ben voilà, c'est quand tu as...
D'abord assainir les finances et puis ensuite, après, tu lèves des fonds.
Malheureusement, oui. Tu vois, c'est dur parce que c'est des décisions dures, tu vois, socialement.
Ah bah t'as jamais envie de le faire. Hein,
t'as jamais envie de le faire. Mais à l'époque, tu vois, la tribune, c'était 180 postes. Le plan social qu'on avait imaginé porter sur une quarantaine de postes, eh bien, tu vois, quand on a liquidé, on en a détruit 130.
Ouais.
Donc, voilà, moi, c'est l'erreur majeure. C'est de ne pas avoir pris cette décision tout de suite. Et quelques grands patrons à l'époque que j'avais rencontrés me l'avaient dit, pourtant, m'avaient dit Valérie, il ne faut jamais reculer ce genre de décision parce qu'un jour ou l'autre, elles reviennent en effet boomerang et c'est parfois trop tard.
Souvent, on dit que les décisions les plus difficiles, en fait, il faut les prendre assez
tôt. Tout de suite. Et ça a été, voilà, l'erreur majeure que j'ai commise à la tribune. Et parce que le reste, bon, globalement, tu vois, même le président du tribunal de commerce nous avait quand même félicité. Bravo, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire.
Puis vous êtes battu, quoi.
Et on s'est battu jusqu'à la fin, mais c'est l'enseignement. C'est de me dire, voilà, effectivement, les décisions. Quand tu sais, à l'évidence, tu n'as pas le choix, tu vois, c'est pas une décision comme ça à l'emporte-pièce. Ouais. Tu regardes ton organisation, tu regardes ton PNL, tu dis non, ça tient pas, quoi. Mmh. Donc, tu n'as pas le choix, il faut le faire comme ça. Et à l'époque, j'avais encore de la trésorerie. Donc, je pouvais le faire. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, c'est l'erreur majeure que je reconnais, tu vois.
Et écoute, c'est tout à ton honneur. Mais à un niveau plus personnel, est-ce que tu dirais que ça t'a appris des choses aussi sur toi-même, tu vois, de face à la difficulté, face à des gens aussi qui sont, du coup, dans des moments difficiles?
Oui. En fait, si tu veux, ça te renvoie beaucoup à... comment c'est un peu compliqué à exprimer, mais... tu vois, à l'époque, sur la tribune, j'étais assez partagée. J'avais quelque part une petite voix qui me disait certaines choses et que je n'ai pas écoutée à la tribune. Et je peux te dire que je l'ai vraiment regretté. Parce que c'est vrai que pour des personnes intuitives en plus, bon, c'est un des rares moments où finalement je ne me suis pas écoutée. Où j'ai écouté un peu trop des gens bien pensants, tu vois, plutôt un côté un peu rédaction, journaliste, etc. Tu vois, le côté un peu bobo. Je peux le dire comme ça.
Vas-y.
Voilà. Quelle erreur, tu vois. J'aurais dû écouter vraiment ce qu'une voix intérieure me disait, c'est-à-dire parle vrai, dis exactement aux gens où tu en es, explique aux journalistes qu'à un moment donné, il va faire un plan social. Tu vois, il y a plein de choses qu'on s'est interdit de dire sous prétexte, mais non, ils ne comprendront pas. Quelle erreur. Si, je pense qu'ils auraient compris, ils n'étaient pas plus bêtes que les autres. Il y a certaines choses voilà, que je me disais, il faudrait que je fasse ça, et finalement, je ne les ai pas faites. Et ça, à titre personnel, ça renvoie finalement à une question de confiance. Hein. Tu vois, et à la tribune, finalement, peut-être que j'ai manqué de confiance en moi. Parce que c'est vrai que c'était super dur. Vraiment, le moment était très, très compliqué. Tu as quand même tous les emmerdes du moment en même temps, quoi. Dans un contexte très compliqué. Donc, je pense que fatalement, j'avais un peu perdu confiance en moi en me disant, oula, est-ce que je suis de taille ? J'avais quand même un concurrent en face de moi, mine de rien, qui est l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, avec Les Échos. Ouais. Ouf, tu vois, c'était quand même assez hard hein, comme contexte. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu un peu confiance en moi. Je ne me suis plus écoutée. Et à titre personnel, je pense que ça a été une grosse erreur.
Que tu ne commettras plus, du coup.
Que je ne commets plus et je cultive même ma petite voix intérieure.
Génial. Justement, c'est une belle transition pour parler de Média Transport. Alors, on va en parler un petit peu rapidement parce qu'une fois de plus, le temps tourne. Mais Média Transport, donc suite à l'échec de la tribune, t'es aussi une fois de plus toujours appelé, cette fois par Maurice Lévy, pour venir d'abord dans un premier temps, c'est ça, être vice-présidente de Média Transport.
C'est ça, oui.
Et maintenant t'es DG.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait, parce que c'est quand même en termes de step un grand groupe, aussi toujours dans un secteur que tu connais pas forcément très bien.
Je connaissais pas du tout.
Toujours un peu le même schéma avec un homme charismatique qui vient te chercher. Et cette fois, en fait, quel était ton mandat quand t'es arrivé chez Média Transport ?
Si je reprends les termes de Maurice, réveiller la belle endormie. Voilà cette belle entreprise avec. De très beaux réseaux, de très beaux produits, mais qu'il fallait dynamiser. Donc, c'est ce qu'il m'a demandé. Je tiens quand même à dire que Maurice, ça a été quand même un des rares patrons français, je précise, à m'avoir fait confiance après cette expérience de la tribune. Parce que je voudrais quand même en parler deux secondes.
Je n'y avais pas pensé, mais en fait, c'est vrai que le côté liquidation...
Quand tu vis un échec comme ça, tu as deux façons de voir les choses. La vision française, qui depuis a évolué, je dois dire, grâce aux startups d'ailleurs, beaucoup.
Un peu, mais grâce... c'est pas si simple, hein, je peux te dire que...
Ouais, c'est pas encore ça, mais...
On le dit, mais maintenant, est-ce que ça se passe ?
Je trouve que la nouvelle économie a, de ce point de vue-là, quand même, d'une certaine façon, banalisé l'échec, au sens, bah, tu te trompes, c'est pas grave, tu te pivotes et tu fais autre chose. Bon. Donc là, on est en 2012. Je peux te dire que l'échec en France, c'était pas terrible encore, hein. Et ce qui était assez rigolo, c'est que finalement, les seuls à m'avoir appelé, c'était des boîtes américaines, Microsoft, Eric Boustouler à l'époque.
Il y a des managers américains qui disent que si la personne qu'ils veulent recruter n'a pas vécu de grand échec, en fait, ils ne la recrutent pas. C'est même l'inverse aux États-Unis parfois, parce qu'ils estiment qu'en fait, du coup, tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas appris, quoi.
Et ben, c'est le cas de Microsoft qui, d'ailleurs, à tel point, chaque année, ils ont un événement qui célèbre...
Ouais, le Falcon.
Exactement. Alors, j'avais trouvé ça incroyable et exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, bah, non, finalement, quand tu as vécu un échec et que tu l'as compris, hein, que tu l'as analysé, évidemment, si tu continues à pleurer dessus, bon, ça, il n'y a pas grand intérêt, mais si tu en ressors quelque chose, effectivement, tu te dis, mais tu es encore plus fort parce que c'est des erreurs qui t'ont marqué et que tu ne referas pas. Ouais. Donc, c'était assez rigolo de voir finalement que les boîtes américaines étaient super intéressées par ce que j'avais fait. Mes gens m'ont félicité, si tu veux, pour ce que j'avais fait à la tribune. La plupart des boîtes françaises, d'ailleurs, je me demandais pourquoi ils voulaient me voir, tu vois, des chasseurs de tête français qui finalement, tu vois, je voyais sur leur visage une sorte de compassion assez malsaine.
Ouais, le sourire un peu gêné, quoi.
Ouais, envie de leur dire, mais pourquoi tu m'as appelé, quoi, tu vois, bon. Et Maurice, qui lui, à l'américaine, tu vois, considère que ton expérience est super intéressante, qui m'avait dit vous avez été super courageuse, bravo, vous êtes allée jusqu'au bout. Bon, je tiens quand même à le dire parce que encore une fois la culture de l'échec c'est quelque chose bon encore une fois qui évolue mais qui n'est pas encore suffisamment valorisé, je prends volontairement ce terme, dans les boîtes françaises. Donc Maurice, je le rencontre dans ce contexte-là. Et quand il me parle de médias transports, il m'explique à l'époque mon président Gérard Inger, l'ancien président, va partir à la retraite et que donc il s'agit de préparer la succession en dynamisant cette entreprise, en apportant des idées nouvelles compte tenu du passé que j'avais eu, tu vois, que ce soit énergie, métro et même la tribune. Donc la feuille de route, c'est celle-là. Et honnêtement, au départ... je me dis, bon, ça m'intéresse parce que je ne connais pas l'affichage. Donc, ça m'intéresse, tu vois, de comprendre. Et puis, dès l'instant où il y a quelque chose, il y a la conduite du changement, tu vois, qu'il fallait mettre en place. C'est ce que quand même m'avait demandé Maurice, d'avoir ce côté un petit peu disrupteur, de développer énormément l'innovation, tu vois, de la digitalisation qui était enclenchée, mais qui n'était pas encore au point où elle en est aujourd'hui. Donc, il m'avait demandé tout ça et je me suis dit, c'est intéressant. Je vais voir ce que ça donne finalement avec l'affichage, avec Maurice Lévy comme patron. Donc là encore, j'ai pas trop hésité. Je me suis j'y vais, je vais voir et j'ai adoré.
Et quels ont été les gros challenges que tu as vécu en arrivant chez Média Transport ?
Bah, c'est de réveiller une boîte endormie. Un peu endormie.
Ouais.
C'est-à-dire de changer les habitudes. C'est très compliqué d'un point de vue management, c'est ce qui est le plus dur.
Donc, okay, beaucoup de pédagogie, d'explication.
Beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, pas comprise. Hein,
surtout quand tu arrives dans une boîte comme ça où c'est pas toi qui as recruté les dirigeants de départ, j'imagine que c'est super dur de faire accepter ta personnalité qui est en plus assez forte. Et comme tu dis, le côté cash, dans des boîtes de ce type, je pense que ça devait pas être facile à faire accepter.
Ça s'est pas bien passé au début pour moi ici, au niveau des salariés qui avaient quand même beaucoup, beaucoup d'ancienneté. Alors des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, ça dépend comment les gens évoluent dans cette ancienneté, soit ils restent avec une curiosité permanente et auquel cas c'est des gens extraordinaires, c'est le cas de Valérie Deltour qui est la patronne de Métrobus, qui est là depuis longtemps, enfin qui est là depuis 28 ans, qui a gravi tous les échelons et qui garde une vraie fraîcheur si tu veux sur l'évolution du marché, et puis à l'inverse t'as d'autres gens qui ne se sont jamais remis en question et qui se sont arrêtés dans les années 90 quoi, tu vois. Bon. Donc, au début, c'était pas super.
Et ça, juste par curiosité, tu peux aller en tant que manager aussi loin dans la conversation avec les tes N-1 en leur disant écoute, là, va falloir que tu te remettes en cause parce qu'on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Enfin, je veux dire, au niveau humain, comment tu fais pour faire comprendre à des personnes que la boîte, elle doit changer, qu'eux, ils doivent changer ?
En leur expliquant comment la société évolue. Et ça, c'est ce que j'ai appris à la tribune. Parce que, je reviens deux secondes à la tribune, mais les journalistes avaient beaucoup de mal à accepter le fait d'écrire pour le web avant d'écrire pour le papier. Le débat qui est enfin dépassé aujourd'hui, mais enfin à l'époque, je peux t'assurer que c'était un vrai sujet. Et à chaque fois, je leur disais, mais comment vous vivez, vous, aujourd'hui ? Enfin, quand tu fais tes courses, tu fais quoi maintenant ? Tu continues au supermarché ? Non, je fais mes courses en ligne. Je dis, bah, voilà. Alors, évidemment, les courses, c'est pas du contenu éditorial, mais enfin, ouais. Globalement, à chaque fois, j'essaye, si tu veux, d'expliquer aux gens pourquoi il faut changer. C'est parce que la société évolue, parce que les usages bougent et que si on ne comprend pas la trajectoire de ces nouveaux modes de vie, de ces modes de consommation, on va rater un truc. Mmh. Regardons ce qui s'est passé en presse, en musique à l'époque. Ouais. Si on veut pas se prendre le tsunami, il faut déjà bien comprendre la société dans laquelle on évolue, bien comprendre les évolutions technologiques pour préparer au mieux notre entreprise aux prochaines décennies. Mmh. Donc, je commence toujours par là. Alors, quand tu as des gens intelligents, très vite, ils disent « bah oui ». Elle a raison. Donc, très vite, ils te suivent. Et très vite, ils s'impliquent et ils te proposent des choses en disant, oui, par rapport à ce que tu m'as dit, voilà ce que je pense proposer. Tu vois, que ce, le marketing ici ou l'innovation, tu vois, dès l'instant où tu as convaincu les gens de l'évolution de la société et de là où il fallait placer ta boîte à terme, après, tu as tes experts qui contribuent directement dans des solutions. Puis, tu en as d'autres qui ne croient pas ou qui ne comprennent rien ou qui disent oui, mais qui vont pour autant ne rien changer dans leur méthode de travail. Donc là, très vite,
tu t'en rends compte, quoi.
Tu t'en rends compte et tu arrives à des ruptures. Mais moi, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que j'ai toujours convaincu les gens, mais pareil pour moi-même, hein, c'est-à-dire que moi, je me convainc par du bon sens, tu vois, du pragmatisme. À l'époque, tu vois, métro, je me dis, mais ça ne peut que marcher.
Oui, ouais, bien sûr, mais honnêtement, je comprends complètement. Souvent, il faut revenir un peu à des basiques. Tu sais, les gens se font des montagnes, des schémas mentaux hyper complexes, ils ont tendance souvent à surintellectualiser, surinterpréter. En fait, souvent, pour les usages, il faut juste se dire, qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, par exemple, en publicité, bah, tu sais qu'on est client chez Média Transport chez Gémio, bah en fait je dis moi je prends le métro, les rares pubs que je vois en fait c'est dans le métro parce que de toute façon j'attends, donc je vois les pubs en face, typiquement ce genre de choses. Et donc en fait j'essaye toujours de ramener un niveau qui est très bête en fait, mais qui est mon usage personnel, parce que moi en l'occurrence j'estime être similaire à ma cible et je pense que c'est, c'est souvent une manière assez basique mais simple de faire les choses bien.
Mais exactement, et moi tu vois il y a Lucie, ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, bon, qui a grandi. Souvent, je lui pose plein de questions. Souvent, tu vois, je la regarde, je l'observe, voir comment elle vit, quoi. Tu vois, ce qu'elle utilise comme langage, ce qu'elle utilise comme plateforme. Ouais. Et ça te permet, elle et ses copines, tu vois, parce que souvent, il y a des copines sur la maison. C'est de l'observation, tu vois. On en revient à ce qu'on disait au tout début. C'est de l'écoute, c'est de la curiosité. C'est de l'observation qui te permet de vivre avec ton temps, quoi, de rester connecté à la réalité. Et du coup, de te dire, a priori, ça devrait évoluer comme ça. Tu peux te tromper, mais jusqu'à présent...
pas tellement.
Non,
non, voilà. Mais je pense que c'est sain. Bah, écoute, c'est une belle transition vers les dernières questions que je voulais te poser. J'aime bien toujours finir par des questions un peu plus personnelles, si ça te va. Notamment, alors, toi, ça m'intéresse énormément le côté vie perso, vie pro. Comment tu gères, en fait, à la fois d'avoir donc une fille, d'être mariée et d'avoir une carrière, quand même, qui, je peux imaginer, notamment à la période de la tribune, devait bouffer toute ta vie. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as réfléchi à l'époque où tu t'es mariée, par exemple, est-ce que tu as eu une discussion peut-être aussi, enfin, comment est-ce que tu t'es un peu formalisé tout ça et comment tu t'organises entre vie perso et vie pro ?
Écoute, là encore, de façon assez, spontanée et naturelle, de façon assez évidente. C'est-à-dire que dans un couple, dans une famille, je pense qu'il est nécessaire qu'à un moment donné, il y en ait un plus que l'autre à aider, à accompagner.
Ouais.
Les deux en même temps, c'est dur. Donc, avec mon mari, Paul, le père de Lucie, il se trouve que, voilà, c'est tombé, si tu veux. Moi, quand j'ai dirigé la tribune, j'étais effectivement dans un mode, dans un tunnel pendant 4 ans. Heureusement, lui, il était quand même plus disponible pour s'occuper de Lucie, pour l'accompagner, que ce soit à l'école ou dans ses devoirs. Et il l'a toujours bien vécu. C'est-à-dire que c'est des choses, oui, dont on parlait, mais pas vraiment tellement, si tu veux, c'était naturel et évident. C'est-à-dire que ce qui m'arrivait, ça aurait pu lui arriver et j'aurais réagi de la même façon. Donc, je pense que pour concilier une bonne vie professionnelle avec une vie personnelle, il faut quand même avoir quelqu'un à ses côtés de tolérant, je dirais d'assez moderne, quand même, sur ces questions. C'est fondamental.
Non, mais c'est évident. Je suis étonnée, en fait, que tu n'aies pas eu la discussion, parce que c'est tout à l'honneur de Paul, parce qu'il n'a même pas eu besoin de ça. Mais souvent, je trouve que quand tu prends une décision aussi dure, où tu sais quand même globalement que tu vas devoir faire plein de sacrifices personnels, tu vois, je me dis voilà, est-ce que t'es prêt à me suivre, est-ce que t'es d'accord avec ça, mais du coup comprends que ça va avoir quand même des implications sur notre vie de couple et puis sur moi, mon temps disponible pour notre famille. Je trouve que c'est assez utile, quoi.
Mais en fait, Paul, il est un peu, on a ce même rapport au risque. Tu vois, lui, il a changé de métier du jour au lendemain sans se poser la question, donc c'est pour ça peut-être qu'on en a pas parler de façon très formelle en disant on tente, on verra. Enfin, tu vois, je tente la tribune. Lui, il trouvait que c'était une super expérience. On savait que ça allait être dur. Bon, voilà, on ne s'est pas posé plus de questions que cela. C'était celui qui pourra aider l'autre le fera et inversement. Donc, ça, c'est quand même la première condition, c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés, d'ouvert, de tolérant. Sinon, ce n'est pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Ça, c'est la première, je pense, condition. La deuxième condition, c'est d'avoir une assistante qui t'aime. Non, mais tu sais, je cite encore Mercedes, parce que Mercedes, c'est un modèle pour nous toutes quand même.
Ouais.
Mais on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps. Parce qu'à un moment donné, j'avais un problème d'assistante. Bon, ouais. Voilà. Et je disais à Mercedes, mais comment tu fais, toi, pour trouver une bonne assistante? C'est quoi les critères? Elle me dit, tu sais quoi? J'ai fini par me dire que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aime.
C'est pas mal.
Et elle a tellement raison. Pourquoi? Parce que...
Elle prend soin de toi, quoi, en fait.
Mais de tout. C'est-à-dire que Fatou, parce qu'elle s'appelle Fatou, mon assistante, elle gère ma vie pro, mais pas que. Elle gère ma vie privée. Tout s'entrechoque.
Ouais.
Là, tu le sais, t'es chef d'entreprise, t'as créé ta boîte.
Avec mon mari, donc moi, tout s'entrechoque.
En plus, donc ta vie privée, à un moment donné, elle se glisse de façon interstitielle dans ton emploi pro. Et c'est comme ça, parce que t'arrêtes vraiment jamais. Tu vois, enfin, le week-end, tu restes à mi-temps. Enfin, bon, donc il faut effectivement avoir quelqu'un à ses côtés en qui tu aies suffisamment confiance. Pour tout partager.
Oui.
Mais enfin, tout, c'est tout.
Oui,
enfin,
c'est ça.
Tout, c'est tout de ma vie. C'est une fois que tu arrives à ça, cette relation, c'est génial. Parce que tu arrives à passer de l'un à l'autre avec beaucoup de souplesse,
ouais,
d'efficacité, d'agilité. Donc, tu vois combien de fois elle m'a aidée, ne serait-ce que pour Lucie, quand elle part en stage, de maths ou autre. Tu as des formulaires à remplir, ce genre de trucs. Tu n'as pas toujours le temps, tu vois. Bon.
Et tu as quand même essayé de mettre en place une organisation, par exemple, pour passer du temps. Je sais que tu fais beaucoup d'équitation.
Ouais.
Je crois que tu en fais avec ta fille aussi.
Oui.
Donc, est-ce que voilà, tu as des moments quand même qui sont vraiment dédiés à ta famille,
oui,
où tu arrives à faire la part des choses et à te dire non, là, il,
oui,
faut que je lâche,
toujours l'activité. Quand Lucie était plus petite, le mercredi midi, il n'y avait rien d'autre que le déjeuner avec ma fille. Mais il pouvait se passer n'importe quoi. Je déjeunais avec elle et je passais, tu vois, on déjeunait ensemble. Je l'amenais au cheval parce qu'elle a démarré le cheval très, très tôt, Lulu. Donc, je l'amenais au cheval et puis voilà. Bon, on avait ce moment toutes les deux. Aujourd'hui, bon, elle a grandi, autant te dire que le mercredi, elle préfère déjeuner avec ses copines, et ce qui est bien normal. Donc maintenant, on a effectivement un temps, on a trois temps, parce qu'effectivement, on pratique la même, le même sport et on partage la même passion pour le cheval. On a deux chevaux d'ailleurs aujourd'hui. Donc on monte le lundi soir à Paris. Là, on monte dans un club, donc toutes les deux. Et le week-end, on va monter nos chevaux qui sont à Mantes-la-Ville, à côté de Vernon. Donc, c'est trois séquences où on est toutes les deux, où on déconnecte. On est là en se disant, bon, allez, aujourd'hui, on va faire ça. Mmh. Enfin, tu vois, c'est on écoute de la musique dans la voiture parce qu'on a 40 minutes pour aller là-bas. Mmh. Donc, on écoute de la musique, on chante ensemble. Ou elle me parle de sa semaine. Mmh. Moi, je lui parle de la mienne. Et c'est hyper important pour ne pas perdre le contact, là encore, avec une ado. Voilà, parce que ça va super vite, quoi. Ça grandit tellement vite. Et c'est là où je suis contente, si tu veux. C'est ma plus grande... Je crois que c'est ma plus grande satisfaction. C'est... Et j'espère que ça va continuer. C'est d'avoir quand même plutôt pas mal réussi professionnellement et d'avoir une relation avec ma fille exceptionelle. Mmh. Exceptionnelle, tu vois. On partage beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, je suis super contente.
Bah, tu peux, parce que c'est tellement rare. Mais j'ai l'impression que tu as fait justement des choix quand même, tu vois, de ce fameux mercredi, ce temps passé en fait rigide. Certes, tu dis les deux, vie pro et vie pro, sont tout le temps liés, mais tu mets quand même un cadre à un moment. Il y a des trucs qui sont indéboulonnables, parce que sinon, en fait, tu te fais bouffer.
Bah, tu n'y arrives jamais. Ouais. Mais sinon, tu as toujours un truc à faire. Bien sûr. Si tu réponds à toutes les invitations tous les soirs, tu as trois soirées en moyenne, tu n'es plus chez toi. Mm-hmm. Donc effectivement, à un moment donné, il faut quand même hiérarchiser et ne pas oublier l'essentiel. Ouais. Et l'essentiel, c'est la famille.
Et tu as eu quand même des moments où tu t'es sentie à un moment donné dans ta vie coupable. Tu sais, c'est une question, je trouve, pour beaucoup de femmes de se dire oui. Je passe pas assez de temps avec mon mari, avec mes enfants.
Oui, oui, d'ailleurs, c'est pas une vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas. Pour rien te cacher, on est plutôt dans un bas en ce moment avec Paul parce que oui, je me dis je suis pas beaucoup disponible quand même, tu vois, t'as beau faire des efforts, t'as beau effectivement t'imposer des choses, il y a des moments, tu peux le comprendre, tu te dis je suis pas assez disponible pour lui, je suis pas assez attentive, tu vois, c'est parce que il s'agit pas d'être là, quoi. Il s'agit d'être là vraiment.
Ouais.
Tu vois, c'est pas juste une présence physique qui
faire
fait
des choses ensemble, discuter.
Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile.
Non.
Donc il y a des moments où t'arrives à mieux le gérer qu'à d'autres.
Moi, je parle un peu de ma vie perso pour une fois. C'est marrant parce que je me disais souvent qu'il fallait que je passe beaucoup de temps avec mon mari parce qu'on travaille ensemble. Donc, on se voit, mais en fait, sans se voir. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous passez votre vie ensemble. Mais en fait, j'ai pas l'impression de le voir tant que ça. Et du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est que régulièrement, on se planifie des soirées sans téléphone, sans aucun lien avec le monde extérieur, si tu veux, ou juste, on peut aller au resto, si tu veux, mais on discute, en fait. On passe du temps ensemble et vraiment, on se raconte pas juste notre journée de travail, mais juste, on parle de l'avenir, de nos rêves, de nos prochaines vacances, peu importe, mais vraiment sans aucune interruption extérieure. Et je trouve que ça change tout. Je me rappelle, la première fois qu'on l'a fait, il m'a dit, c'est marrant, c'est la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression que t'étais vraiment là. J'ai l'impression que t'étais vraiment avec moi. Et moi, de la même manière. Et je trouve que je me permets, je ne sais pas si c'est un conseil ou quoi, mais quand tu es avec quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment être à 100% avec la personne. Parce que sinon, en fait, si tu es juste à côté,
ça sert à rien.
Autant ne pas y être.
Non,
quoi.
Oui, tu as raison.
Donc voilà, ça marche. Et au-delà de la vie de couple, moi, j'aime bien demander quelques petites questions à la fin du podcast sur notamment tout ce qui est sport et alimentation. Alors, sport, tu m'en as parlé, j'ai l'impression que c'est vraiment important pour toi.
Ouais.
Tu dirais que tu as toujours été d'un naturel sportif.
Toujours.
Et qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu as fait ce choix? C'est juste pour être bien dans ton corps. Enfin, en tant que femme très active, on pourrait imaginer que tu laisses déborder la vie professionnelle justement sur cette hygiène de vie. Qu'est-ce qui fait que ça a été important pour toi?
Écoute, j'ai l'impression que je fais du sport depuis toujours. En tout cas, on avait commencé avec ma sœur à faire de la compétition en natation. Tu vois, on avait quoi, 12 ans. Donc, et puis avant, comme j'étais déjà grande, je jouais pas mal au basket. Tu vois, donc le sport, ça a toujours été là comme D'abord, un moment de dépense, voilà, où tu te lâches, quoi. Tu t'amuses, parce que gamin, tu te marres quand même au basket. Alors, en natation, tu te marres moins,
ouais,
quand même.
Oui, tu te marres moins en natation.
Parce que tu fasses au carreau, bon. Mais ça a toujours été plutôt une hygiène de vie. Bon. Après, il y a une époque, quand j'ai commencé à travailler, mais en fait, j'ai toujours fait plein de sports différents. J'ai touché quasiment à tous les sports. J'ai eu des périodes vélo, j'ai eu des périodes tennis, périodes natation, et puis après, plus de natation pendant des années parce que j'étais écœurée, justement, de ce carrelage-là avec lequel. Tu passes à peu près une heure en entraînement.
C'est pas le sport le plus facile, hein, la natation.
C'est pas le sport le plus facile. Et puis après, l'équitation qui est arrivée, puis qui est repartie parce que des chutes assez sévères. Donc tu dis, je ne remonterai plus. Et puis ça te reprend. Bon. Donc ça a toujours été présent dans ma vie. Une grosse période running aussi, course à pied, où je me suis bien abîmé les genoux. Et aujourd'hui, alors à mon âge, hein, parce que maintenant, plus de 50, hein, je fais du sport. Aujourd'hui, plus pour m'entretenir. Ça a été longtemps pour m'amuser, parfois pour me dépasser mes limites physiques, parce que j'ai de bonnes dispositions physiques, je touche du bois, j'ai un corps sportif, quoi. J'ai cette chance.
Ouais, ouais.
Donc, et puis des fois, des coachs qui me faisaient croire que j'aurais pu être championne et j'avais la faiblesse de les croire, tu vois. Donc, je me souviens d'entraînement, notamment dans le running, de dingue, mais de dingue.
Mais pourquoi tu as fait des marathons?
J'ai fait des semi-marathons avant de me broyer les genoux. D'accord. Parce que maintenant, j'ai plus de cartilage, j'ai plus rien. Mais y avait quand même cet esprit compète qui était là, alors que je retrouve aujourd'hui dans l'équitation.
T'es un peu compète. Oui.
Ouais, quand même. Mais je continue à nager parce que j'ai retrouvé le goût de la natation il y a maintenant 5 ans. Et je nage toutes les semaines. Je fais mes 5 bornes par semaine.
Ah oui, quand même.
Ouais. Le cheval, c'est au moins 3 séances par semaine.
Donc, tu arrives à concilier quand même vie de famille, hygiène de vie personnelle et boulot.
Ouais.
Tu dors beaucoup?
Non.
C'est ça. J'allais dire, il y a un moment où l'équation ne fonctionne pas.
Je dors pas beaucoup.
Tu dirais que tu dors combien d'heures par nuit à peu près?
5 heures.
Ah ouais, donc c'est faible.
J'ai pas besoin de... Mais c'est dingue, si tu veux, quelle que soit l'heure.
C'est génial. Franchement, c'est une grande chance. Hein.
Ouais, je sais. Et je récupère très vite. Je sais que c'est une chance. Tu vois, hier soir, j'étais super crevée par contre. Je me suis écroulée à 22h30. Mais écroulée.
Oui, de temps en temps, ton corps a besoin de récupérer quand même, quoi.
Je suis réveillée depuis 3h30 du matin.
Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, j'ai les 5 heures, ils sont...
C'est incroyable. J'ai pas besoin de mettre mon réveil. C'est... Bon. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et le week-end, j'arrête pas. Hein. C'est-à-dire que même le week-end, c'est timé.
Oui.
C'est peut-être le côté amélioré dans ma vie.
C'est timé, tu veux dire boulot le week-end?
C'est-à-dire que on se lève tôt le week-end avec ma fille pour monter à cheval.
Ouais.
Ça prend du temps d'y aller, de préparer les chevaux.
Ce que j'allais dire, le cheval, c'est pas le sport en termes de rapport temps.
Ça te prend du temps.
Ça prend énormément de temps.
Peut-être moins que le golf, mais quand même, ça te prend quand même du temps. On rentre, on déjeune, après je vais nager. Je reviens, Lucie, pendant ce temps-là, elle fait ses devoirs. Après, moi, en général, ma chef de cab, l'équivalent de chef de cab, m'a donné plein de devoirs, en général, le vendredi.
Sympa.
Donc, c'est là où je me tape toutes les lectures.
Donc, tu bosses le week-end, quand même.
Ouais. Le week-end, je lis beaucoup. Parfois, il y a des RP.
Mm-hmm.
Soit parce qu'on est partenaire d'événements, il faut qu'on soit présent pour accueillir nos clients. Soit beaucoup
t'as
de choses
à... des événements où parfois t'es obligé d'être présent.
Voilà. Et beaucoup de choses à lire, de préparer différents comités, rendez-vous, prise de parole. En ce moment, on travaille beaucoup là-dessus avec Alexandra. Donc, et le dimanche, c'est rebelote, quoi. Et puis souvent, il y a des dîners le samedi soir. Alors, moi, en plus, j'aime bien recevoir parce que j'aime bien faire à manger. Donc, je me mets au fourneau, on fait un petit dîner le samedi soir avec des amis. Soit on va chez des amis, soit on va au cinéma, on sort, on va voir des spectacles. Bon, on a quand même... Puis le dimanche matin, c'est pareil. On se relève tôt, on repart au cheval. Enfin, tu vois, en fait, il n'y a pas une journée...
Où tu fais rien.
Où je fais rien.
Y a en pas même temps, une journée, ça ne te plairait peut-être pas.
Bah, je vais te dire un truc, et ça, il va peut-être falloir que je me décide à aller voir un psy, un de ces quatre. Mais quand je ne fais rien, je déprime.
Bah, tu vois, mais je pense que moi, je dis souvent l'action et les projets, c'est un peu le secret du bonheur. Donc,
ouais, je pense aussi.
Donc, écoute, tu m'as parlé donc de lecture, et ça tombe bien parce que ma dernière question, c'est toujours est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué, dont tu pourrais me parler ? Ça peut être business, ça peut être pas du tout business. Je crois qu'il y a un livre. Au sujet de Mitterrand dont tu voulais me parler.
Ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, déjà tu as demandé à ce que ce choix soit sincère, donc ouais. Voilà. Et puis j'ai essayé d'impressionner la normalienne que tu
T'inquiète
es en me disant
pas.
Peut-être avec un peu de chance elle aura pas lu
ce
livre.
Je l'ai pas lu.
Et peut-être qu'elle aura envie de le lire.
Écoute,
de
il
le
est
lire,
devant
pardon.
Nous là et il donne envie.
Donc c'est un livre vraiment super, Le chapeau de Mitterrand. Antoine Laurin, donc, qui est l'auteur, qui, en fait, le sujet, c'est ce chapeau, donc, de François Mitterrand, qui était donc président dans les années 80. Ça se passe dans les années 80, qu'il oublie dans un restaurant et que le personnage du livre récupère. Et, en fait, si tu veux, ce chapeau a manifestement un pouvoir magique. Toutes les personnes qui l'ont en main, d'un seul coup, voient leur vie complètement changée, bouleversée, magnifiée. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est de mixer, en fait, le pouvoir magique au pouvoir tout court, et en l'occurrence avec François Mitterrand, à l'époque président de la République, et de te dire qu'en fait, au plus haut niveau du pouvoir, on peut encore avoir cette faiblesse de croire dans la magie, dans tout ce qui est paranormal. Et les derniers mots de François Mitterrand lors de son dernière intervention à la télé en 94, avant de mourir, parce qu'il est mort juste après de sa maladie, il a dit... je crois. Attends, je
tu
reprends
me l'as
le bouquin parce que évidemment, je ne connais pas par cœur. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Et ce livre parle que de ça, si tu veux, de magique et comment le magique justement peut parfois peut-être expliquer le destin de grands hommes comme François Mitterrand. Génial. Moi, j'ai adoré. Puis ça retrace toute la décennie des années 80. Période où j'étais très jeune, donc j'ai bien aimé ce livre, je le recommande, c'est super bien écrit, ça va vite, ça se lit en 2-3 heures, c'est génial.
Génial, je le mettrai dans les notes.
Ouais, bah, je te l'offre.
Ah bah écoute, avec plaisir, merci beaucoup.
Parce que c'est vraiment un livre qui vaut le détour. En fait, quand je dis je te l'offre, j'aimerais bien que tu me le rendes un jour quand même, parce que c'est un livre que
t'inquiète
j'ai...
pas, je l'achèterai.
Non, mais lis-le. Ouais. Mais tu me le rendras comme ça, ça me donnera l'occasion de le revoir. Et il y a un autre livre.
Ouais.
Qui m'a vachement marqué aussi, que j'ai beaucoup, défendu auprès de pas mal d'amis. C'est un livre qui s'appelle La Société de Défiance.
D'accord, je connais pas non
pour
plus.
Le coup, c'est pas du tout un roman, c'est un essai, on peut dire sociologique, qui a été fait par deux journalistes, Pierre Cahuc et Yann Algan. Et en fait, c'est un tout petit livre, mais qui fait 60 pages.
D'accord.
Que j'ai pas retrouvé parce que je l'ai offert. C'est souvent quand j'aime les livres,
c'est
je les
ça,
offre
j'ai peur
à mes
de
copains.
Le prendre là.
Non mais je le recommanderai chez mon libraire. Comme ça lui fera le pauvre des ventes par rapport à Amazon. Ça lui fera du bien. La Société de Défiance, c'est un livre génial qui t'explique comment le système social français, c'est très actuel en plus, s'autodétruit depuis toujours.
Tu veux dire le côté un peu assistanat, etc., ouais. de la société française ?
C'est vraiment, c'est remarquable. C'est un petit essai, je te dis, qui n'est pas récent, qui est sorti, je dirais, il y a peut-être une dizaine d'années. Remarquable.
D'accord.
Vraiment, je le recommande à tous parce que ça te permet de comprendre un petit peu les paradoxes de la société française.
D'accord. Merci mille fois pour tout ton temps. On a brasser plein de sujets. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai encore plein de questions, évidemment, mais c'est pas grave, on refera peut-être une V2. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai appris plein de choses. Est-ce qu'il y a, pour terminer, un endroit sur le monde du web où on peut te contacter? Alors, ça peut être, je sais pas si t'es sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Souvent, les auditeurs du podcast aiment bien, envoyer des petits messages, parfois de remerciements, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de te suivre ou de te contacter sur le web? Peut-être LinkedIn,
Ouais. Alors là, c'est plutôt la partie pro, ouais. Donc on peut me contacter sans aucun problème. Et sur Facebook, c'est un mixte.
D'accord, mais plutôt LinkedIn si tu veux.
Voilà, mais ça peut plutôt LinkedIn pour
très
contacter.
Bien. Je mettrai ça dans les liens du podcast. Merci beaucoup, Valérie.
Merci à toi, Pauline.
Au revoir.
Au revoir.